Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 58, la confrontation avec les artistes.
Vous avez plusieurs fois dit, mais simplement en passant, que Strasbourg vous permettait aussi d'accueillir personnellement à votre domicile un certain nombre d'artistes, parmi lesquels de très grands. Est-ce que, au-delà de la dimension amicale, humaine, affective de ces contacts, vous avez employé ces relations à des fins de vérification ?
Vérification. En un sens, oui. Je veux dire par là que si j'avais chez moi Elisabeth Schwarzkopf et Walter Legg, les deux chez moi, et que je leur fasse écouter un disque qu'ils ne connaissaient pas, pour tâcher de leur faire admirer, enfin, les voir s'émerveiller et s'interroger devant quelque chose qui, même eux, des professionnels s'il en est, les estomaquait. Et quand, pas du tout pour leur montrer, je dirais, la Foster Jenkins dans une saleté juste pour les faire rigoler, c'est pas ça qu'on fait avec eux. Mais leur faire vraiment entendre, voilà, quelque chose qu'on a trouvé dans un coin et qu'eux n'ont pas encore trouvé. Et qu'ils vous regardent avec considération. D'une certaine manière, oui, vous êtes vérifié, vous êtes authentifié vous-même. D'une certaine manière. Mais bon, là, je prends un cas extrême dans la mesure où j'ai pu effectivement faire entendre à Elisabeth et à Legg un Margaret Sims qu'il se trouve qu'il n'avait pas entendu et qui est précisément l'assez rare, pour l'époque, le repiquage ou dans le Schattenwalzer de Dinora, Ombre légère, Margaret Sims produit quelque chose qui est comme un écho à l'intérieur de sa propre respiration, c'est-à-dire fait que, allant à l'extrême de ce qui est toute messa di voce possible, elle éteigne complètement le son et, sans respirer, reprenne de façon à retrouver une plénitude du son. Je dirais qu'ils étaient là, les deux, absolument ahuris. Et je me suis dit, mon Dieu, tel que je connais Elisabeth, dès le lendemain, elle va faire comme le jour où elle avait entendu Magda Olivero à New York et va essayer de trouver le truc. Comment on fait ça? Bon, mais ça, c'est un truc un peu extrême où je peux effectivement marquer, enfin, ma propre compétence ou ma propre avancée dans un certain domaine. Mais davantage, dirais-je, je ne dis pas que j'osais parler musique, mais enfin, je veux dire, On parle de Schubert, on parle d'une œuvre de Schubert. Quand on parle d'une œuvre de Schubert avec Serkin, on parle d'une œuvre de Brahms avec Arau ou avec Rubinstein, et qu'on est assez bon pour eux, et qu'ils ont plaisir par là, non pas à entrer dans des explications, parce qu'il n'y a pas à donner des explications, et ce n'est pas ce qu'on leur demande. Jamais je ne me serais permis de leur demander, Maestro bitte schön, maintenant vous allez me faire un topo et m'expliquer ce que c'est que la Hammerklavier, ou c'est... non. Mais à propos de la Hammerklavier, par exemple, on entend Serkin dire que de toute façon, même quand il joue ça, et même quand il joue la fugue de ça, c'est tout de même le modèle vocal qu'il a dans son oreille, bon, et qu'on peut rester une demi-heure à parler ainsi, à bâton pour ainsi dire rompu, mais toujours autour de la musique, et sans essayer de rien dire de savant autour, mais en commentant, en devisant, eh bien, d'une certaine manière, on est, je ne vais pas dire authentifié, mais on est accrédité, on est à cet égard vérifié. On est testé. Je veux dire que le Bassanidzain, il est tout de même là. Je veux dire, on a en face de soi quelqu'un qui est plus important qu'un examinateur de jury d'agrégation. Je veux dire, l'examinateur du jury d'agrégation, on a 50 moyens de lui faire de l'effet, de le tromper, de lui jeter de la poudre aux yeux. Mais deviser ainsi autour de Beethoven ou autour de Brahms, je veux dire, avec quelqu'un qui n'a aucune raison de parler de ça et qui probablement mangerait plus volontiers des amandes salées. D'une certaine façon, quand il le supporte, voilà, c'est que vous pouvez le faire. Et c'est à cet égard que, effectivement, les artistes que j'ai eu la chance de pouvoir avoir à ma table à Strasbourg m'ont en quelque sorte, pas du tout installé dans mon autorité, Seigneur mon Dieu, parce que je veux dire, cette autorité n'est valable précisément devant aucun employeur. Enfin, on ne peut pas la montrer comme un diplôme. Mais pour moi-même, je me disais, bon, il y a quand même un examen de passage que j'ai subi. Et je dois dire, je vais dire une chose beaucoup plus récente, et qui montre enfin quel est le degré d'audace. Enfin, j'ai eu très récemment, il y a de cela 4 ou 5 ans, au moment où je pouvais apparaître moi-même comme une espèce d'autorité sur un certain nombre de matières, et en tout cas enfin, comme un conférencier qui, en général, sait très bien mettre son public dans sa poche, et en lui disant des choses qui sont bonnes à savoir et qu'il ne savait pas avant de venir. Et je me suis trouvé avoir à faire à Nancy une conférence sur le roi Candaule. Bon. Alors, je ne dirais pas que Zemlinsky est de tous les auteurs celui que j'ai le plus pratiqué, mais enfin, il m'intéresse réellement. Le sujet du roi Candaule ne m'intéresse pas à cause de Gide, mais plus probablement à cause de Gigès et de la reine Rhodope que j'avais traduite autrefois pour Sylvia Montfort, etc., etc. Mais enfin, ça m'intéressait de toute façon de sortir de mes, je veux dire, parler de la chauve-souris ou parler de Manon, ça m'est plus immédiatement facile. Pour Zemlinsky, il a fallu quand même que je fasse un peu de homework. Et j'en ai fait très suffisamment pour être sûr, enfin, de ne pas me prendre les pieds dans les dates, de ne pas dire de bêtises plus grosses que moi, etc. N'empêche que, étant pour une fois à peu près sûr de ce que j'avais à dire et l'ayant préparé, j'ai piqué un phare absolu quand j'ai vu qu'il y avait, quand on m'a dit au moment où j'y arrivais, qu'était dans la salle Kontarski qui dirigeait. Et je me suis dit, bon, il y a des choses que je peux dire devant un public qui ne sait pas, et c'est tout autre chose d'avoir à les dire devant quelqu'un qui sait. Et qui, par hypothèse, sait beaucoup mieux. Alors, je veux croire que, ou bien que j'avais ajouté un peu de science acquise à une science qui était infuse, ou que la courtoisie, simplement, de Kontarski ait fait en sorte que, ou qu'il ait très bien compris qu'après tout, je ne faisais pas une conférence pour lui, qui est le chef d'orchestre et qui est un spécialiste, mais pour des gens qui ne savent pas du tout, toujours est-il qu'il m'a très chaleureusement complimenté, ce qui m'a fait le plus grand plaisir et m'a soulagé extrêmement, parce que je peux dire que j'ai fait mon heure de conférence, comme je le fais toujours, sans un papier devant moi, et avec des œufs dans mes souliers, dans ma bouche, je dirais, et le sens. Bon, je sais bien où s'arrête ma compétence, et je sais bien qu'il y a des choses. Je sais bien que ma compétence n'est qu'au regard de gens qui en savent moins que moi. Mais je sais également que c'est mon métier, et mon métier depuis toujours, de parler pour des gens qui en savent moins que moi, pour tâcher de les élever au niveau où je suis, moi. Et nous n'avons pas à aller, eux et moi, plus haut que cela. Bon. Et ça, bien entendu, les professeurs de Sorbonne ne voudront jamais l'accepter. Et ça les emmerde. Bon, mais...
Mais cette vérification, ça peut être aussi simplement le fait que, ayant eu une impression, une intuition, ayant conçu un réseau de sensations à l'écoute d'une œuvre, le fait que l'interprète que vous rencontrez à telle ou telle occasion semble les partager, est-ce que c'est une réassurance ?
Non. Non, parce que là-dedans, il y a vraiment une question de goût, purement et simplement. Et je ne demande pas d'un interprète qui est là, chez moi, et que j'aime en tant qu'hôte, mmh. et avec qui je suis en conversation, d'authentifier mes propres goûts, ni de, comment dirais-je, de convertir les siens aux miens par simple travail d'hospitalité. D'ailleurs, ce n'est pas de ce côté-là qu'on allait, mais je prends un exemple, avec Serkin, par exemple. Bon, avec Serkin, avec qui on... En effet, j'ai beaucoup parlé de Beethoven, j'ai beaucoup parlé de Schubert, j'ai beaucoup parlé de Bach, beaucoup, beaucoup. Mais d'une façon, pour ainsi dire, plus morale qu'autre chose, comme pour essayer d'entrer dans un paysage mental et d'avoir, par exemple, sur la sonate en la majeure de Schubert, une confirmation de cette espèce de sentiment biblique, de quelque chose d'apocalyptique et d'exode qui intervient dans le deuxième mouvement avec cette marche à l'abîme, et qu'il pouvait y avoir enfin quelque chose en effet comme une vision en général qui est une vision de Bible ou d'exode, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la Wanderlust ou le pas du promeneur même fatigué sur un terrain qui est quand même la campagne avoisinante. Voilà. Comment on trouve les mots pour parler de ces choses-là et comment on s'aperçoit que c'est de ça qu'on est en train de parler ensemble, je ne sais pas. Ça se passe simplement quand on est de loisir, que scolen agomen, comme disait notre maître Socrate, et c'est parce que nous ne cherchons pas à en parler d'une façon savante que l'occasion d'en parler vient comme cela. Mais par exemple, je me rappelle un jour sur Serkin, c'est arrivé sur Fritz Busch, et sur Così fan tutte. Et sur Così fan tutte, je dirais que Così fan tutte n'est pas même le genre d'œuvre sur lequel je pouvais penser que Serkin ait quelque chose à dire, ni qu'elle l'intéresse, enfin, plus particulièrement que cela. Mais je lui racontais quelque chose que moi j'avais trouvé, que j'avais trouvé de par mon écoute, simplement, c'est-à-dire quelque chose comme la répétition d'une sorte de à peine de motifs et de figurations, d'éclairages harmoniques étranges, qui étaient communs dans de certaines circonstances émotionnelles, définies par le livret et exprimées ensuite par la musique et l'air dans lequel elles vont se jeter, mais communs à Fiordiligi et à Dorabella, comme c'est véritablement le même sentiment, la même sensation. Passer de l'une à l'autre et qu'elles soient véritablement comme des jumelles et comme les deux figures d'une même identité. Et je lui ai même montré cela sur la partition. Et je l'ai vu fasciné. Et il m'a dit, mais il faut écrire ça. Alors oui, ça, c'est une confirmation. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'il y a là-dessous. Mmh. Sauf que c'est quelque chose que j'ai senti et que Serkin a été intrigué par la chose que j'avais sentie, me laissant à moi le souci et la tâche de trouver, s'il y en avait un, le mot de l'énigme. Mais ça veut dire que des choses que j'entends, des choses qui me frappent dans ce que j'entends, et qui appartiennent à ma mémoire d'écoute, et qui ne me viennent en vérité que parce que j'ai une mémoire d'écoute, et que le souvenir d'un moment vient éclairer un autre moment que je suis en train d'entendre. Eh bien, ça peut être en effet l'objet d'une recherche, et comme disait Gide dans Palude, d'autres en auraient fait un livre, que bien entendu, moi je ne fais pas, parce que ça ne va pas si loin. Mais en résulte, en effet, pour moi, ça a été pour moi la confirmation de la gemellité, en quelque sorte, de Dorabella et Fiordiligi pendant tout le premier acte, c'est-à-dire tant qu'elles sont indissociables l'une de l'autre, et que les mêmes figures... Enfin, je ne peux pas rentrer dans le détail de cela ici.
Dans le livre que vous consacrez à Arao, à Passionata, il y a un passage où vous dites qu'il aimait les chanteuses comme vous les aimez, qu'il les connaissait, et qu'il utilisait pour parler de leur voix, il recourait volontiers à des métaphores. Et c'est un passage où vous dites qu'il compare la voix de je ne sais plus quelle chanteuse à un collier de perles. Est-ce que sur cet usage de la métaphore ou ce recours à des formules imagées pour exprimer le sentiment musical ou la compréhension musicale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a... C'est drôle parce qu'en fait, quand vous en parlez, c'est comme si Arao vous confortait dans la nécessité de recourir à la métaphore, alors qu'il est vrai que très souvent, on considère que c'est une facilité de recourir à la métaphore pour parler de musique, plutôt que, comme nous le disions la dernière fois, de dire que c'est AB à prime.
Oui, mais attention, là, à ce moment-là, si je me rappelle bien l'occurrence, il s'agissait d'un détail d'interprétation. C'est-à-dire qu'il s'agissait de, si j'ai bonne mémoire, Giulio Cesare ou un autre Handel, dans lequel il y avait en concurrence Marilyn Horn, Caballé, Sutherland, et où Arao disait à Galliera, qui était précisément à la recherche de quelqu'un pour le Requiem de Verdi, éventuellement Caballé. Et Arao parlait de son écoute et parlait de la vocalisation de Caballé ou de Horn et de l'égalité sonore, de l'égalité en quelque sorte matérielle procurée à chaque son produit dans la gamme, dans la vocalisation rapide, en sorte que chacune des notes, au lieu d'être un simple passage ou un simple effleurement, soit là avec sa consistance en quelque sorte matérielle et avec l'orient d'une perle. Mais la même métaphore est indispensable. Partout où on a à se référer à quelque chose de physique dans la voix ou dans la sonorité. C'est-à-dire que lorsque Ivo Gunn disait à Schwarzkopf, que Schwarzkopf disait que l'enseignement essentiel d'Ivo Gunn avait consisté à cela, à cette ambition à repérer dans ce qu'on peut appeler une échelle vocale, une échelle des sons dans le gosier, si je puis dire, parce qu'il faut bien les localiser quelque part, dans le gosier d'une chanteuse, voilà, ces étapes et ces étages, ces points qu'il s'agit de changer en des masses, ces points qui ne sont que des repères pour qu'on se figure la chose, et qu'on peut découper selon les degrés de la gamme, bien entendu, en sorte que sur les degrés de la gamme, chacun des sons produits acquiert à la fois l'orient qui qualifie et qui distingue la perle, mais la substance et la consistance qui la qualifie comme masse sonore et qui en fait une masse sonore dont on va pouvoir ensuite jouer à son gré comme le pianiste joue de ses touches. En produisant à la fois, en respectant la discontinuité des touches et en essayant d'obtenir la continuité de legato sur toute l'échelle. Bon, là, ça c'est un usage en quelque sorte obligatoire de la métaphore, parce qu'on passe à quelque chose qui est physique. Ce n'est pas proprement parler de musique, c'est parler de technique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parler de musique, c'est quel effet me fait Schubert ? Quel est le paysage propre de Schubert ? Il s'agirait plutôt, je n'ose pas le dire ainsi, mais enfin d'une psychanalyse en quelque sorte, du paysage intérieur, du paysage mental, du paysage affectif, du paysage de mémoire et d'avant-mémoire qu'il peut y avoir dans Schubert et qui fait que son imagination constructive, son imagination déambulante, va ainsi plutôt qu'autrement et choisit un pas plutôt qu'un autre. Et pour la promenade que ce pas va conduire, ces couleurs de paysage et de sous-bois, ou au contraire de prairies ouvertes ou de bord de l'eau, et la façon dont ces couleurs se montrent dans sa musique, et ceci n'a rien de technique. Et pour tout ceci, il faut arriver à la métaphore. Simplement parce qu'on ne peut pas le dire sonorement. On peut le dire sonorement en le jouant soi-même, ce que je ne peux pas faire. Alors, je peux, au lieu de le jouer moi-même, vous faire entendre Serkin le jouant. Mais c'est à vous, à ce moment-là, de trouver le principe métaphorisant qui va transformer ce que vous entendez en quelque chose qu'au fond de vous-même, vous n'entendez plus, mais vous, sentez et ressentez, avec ce que par ailleurs votre culture visuelle, et comme je le disais l'autre jour, même la culture éventuellement olfactive, en ce qui concerne les sous-bois et l'odeur des feuilles mouillées, ou la proximité du ruisseau à truite, va pouvoir vous apporter. Et c'est à l'intérieur même du colombier du Tête-à-Tête que nos cinq sens, qui sont cinq, voilà, mais auxquels je crois qu'on peut ajouter cette deuxième oreille que nous avons au fond de la première, et qui fait comme un sixième que la plupart des gens ne trouvent pas, et qu'on ne trouve généralement pas quand on passe par la Sorbonne.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuzz.com/tubeuf.